Je vous ai parlé ainsi pendant que je demeurais auprès de vous. Mais c'est le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, qui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne cède pas à la lâcheté. Vous avez entendu que moi je vous ai dit, je m'en vais et je viens à vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, pour que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi qui lui appartienne, mais c'est pour que le monde sache que j'aime le Père et que je fais ce que le Père m'a commandé. Levez-vous, partons d'ici.
Dans un film qui est sorti en 2002, Signe, alors certains étaient à peine nés, je sais, mais avec Mel Gibson comme acteur principal, on assiste à une scène poignante. La femme du héros subit un terrible accident de voiture. Et au moment où il arrive sur place, on lui dit qu'il n'y a aucun espoir. Elle est encore en vie, mais ses blessures sont fatales. Et on lui dit, vous pouvez aller lui parler, elle en a encore pour quelques minutes, mais son sang inévitablement va s'écouler et elle a aucune chance de s'en sortir. Elle va perdre beaucoup de sang. Et donc c'est une scène particulièrement triste où cet homme va voir son épouse et il commence par lui demander des choses toutes banales pour essayer de la garder consciente. Et puis en même temps, il y a cette tristesse terrible de savoir que c'est leur dernière conversation et qui doit lui dire au revoir. Et en lisant le discours d'adieu de Jésus à ses disciples, comme nous le faisons depuis quelques semaines maintenant, on peut se demander si de la même manière il s'agit finalement d'un discours exclusivement rempli de tristesse, avec peut-être une vague espérance pour la suite, mais vraiment rempli de tristesse où il n'y a pas vraiment de place pour la suite et pour l'espoir. Jésus a clairement affirmé qu'il va mourir, il va subir une mort terrible aux mains de ceux qui lui veulent du mal depuis déjà longtemps. Et on peut voir également qu'il souligne son départ. Il dit qu'il va partir. Les disciples ne l'auront plus à leur côté. Ils ne pourront pas le suivre alors qu'il enseigne les foules en Galilée, en Judée. Ils n'auront plus ces entretiens avec lui côte à côte comme autour de ce dernier repas qu'ils viennent d'avoir. Donc il y a vraiment un élément poignant et même un élément tragique dans ces dernières paroles de Jésus. Et pourtant, Jésus parle d'espérance. Et pas comme quelque chose de vague, de très théorique. Il parle d'une espérance concrète et proche. Et on va voir pourquoi. Et la question que je voudrais poser en filigrane de ce message, c'est la suivante. Est-ce qu'on peut se réjouir de la croix ? Et pour y répondre, je vous invite à voir dans ce texte deux promesses d'abord, et ensuite deux assurances données à Jésus, par Jésus à ses disciples. Deux promesses tout d'abord. La première promesse que Jésus fait ici, en fait, c'est le rappel d'une promesse qu'il leur a déjà faite quelques instants auparavant et dont Paul nous a parlé dimanche dernier. On a vu que Jésus annonce la venue d'un défenseur qui, à la suite de Jésus, va venir soutenir les disciples, il va venir s'investir dans leur vie et leur donner les ressources pour vivre leur vie nouvelle avec Dieu. Et à présent, Jésus revient à cette promesse du défenseur et il va préciser les choses. Et s'il y avait un doute sur l'identité de ce défenseur dans le passage précédent, eh bien là, il n'y en a plus guère, plus du tout. Verset 26, « C'est le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, qui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. » L'Esprit Saint. L'Esprit n'est pas un nouveau venu sur la scène biblique. Dès les premières pages de la Bible, en fait, même dès le deuxième verset de la Bible, l'Esprit de Dieu est mentionné, cet Esprit qui est distingué de Dieu et en même temps qui procède de son être même. Et il intervient notamment pour communiquer la volonté de Dieu à son peuple. Et on voit ça au fil de l'histoire qu'on lit dans l'Ancien Testament. C'est cet esprit, par exemple, qui inspire les prophètes d'Israël, qui appelle le peuple à placer leur foi en Dieu, à lui rester fidèle. Mais il y a plusieurs textes déjà dans l'Ancien Testament qui annoncent une nouvelle ère, une nouvelle situation à venir dans laquelle Dieu enverra son esprit d'une manière nouvelle sur tous ceux, quels qu'ils soient, qui lui ont confié leur vie, qui ont placé leur foi en lui. Donc l'annonce d'une venue de l'esprit qui sera renouvelée, qui sera universelle sur tous ceux et celles qui ont placé leur foi en Dieu. On a donc des textes de l'Ancien Testament qui déjà annonce cela. Et là, on se trouve plusieurs siècles plus tard avec Jésus et ses disciples. Et Jésus est en train de dire à ses disciples que cette nouvelle ère, elle est sur le point de commencer. Ça y est, on y est, ou presque. Ce que les prophètes annonçaient, la venue de l'Esprit, c'est pour très très bientôt. Et donc, il y a de la tristesse. Mais parce que cette venue de l'Esprit, et on va y revenir, est directement lié à la mort de Jésus et à son retour auprès du Père, il y a aussi de la joie. De la joie dans cette nouveauté, de la joie dans cette échéance qui arrive et qui est à quelques heures maintenant. À une échelle absolument incomparable, je me rappelle quand j'ai quitté le foyer familial à 18 ans pour aller faire des études à des milliers de kilomètres de ma famille, puisqu'à l'époque, ma famille habitait au Liban, et je suis allé faire des études aux États-Unis, donc c'est vraiment très loin. Et je ressentais la douleur de quitter le foyer familial. Il y avait une part de deuil à faire, surtout de me dire que j'allais beaucoup moins voir mes parents, mes sœurs. Il y avait une tristesse, mais il y avait aussi la joie d'une nouvelle étape. Il y avait aussi la joie des promesses de l'avenir et d'une relation qui continuerait avec ma famille, même si forcément elle serait différente. Ici, à une toute autre échelle, Jésus ne cache pas la tristesse et la gravité de ce qui va arriver, mais en même temps, il veut que ses disciples prennent conscience qu'une nouvelle étape va bientôt commencer. Et c'est une étape qui est aussi pleine de promesses et aussi pleine de joie. Et cette nouvelle étape, elle sera pleinement inaugurée, dit Jésus, lorsque l'Esprit viendra auprès de ses disciples. Ce défenseur qui va venir. Or, cet esprit viendra quand Jésus sera retourné auprès du Père. Ce qui frappe, c'est la manière personnelle dont Jésus décrit l'esprit ici. On a déjà vu ça d'ailleurs la semaine dernière. Jésus ne dit pas « par mon esprit, je vous enseignerai tout » ou bien « par son esprit, Dieu vous enseignera tout ». Il dit « c'est le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, qui vous enseignera tout ». Et les chapitres suivants confirmeront amplement le caractère personnel du Saint-Esprit, de même d'ailleurs que le reste du Nouveau Testament. On aura l'occasion d'y revenir. Mais bien sûr, Jésus ici n'est pas en train de donner un cours de doctrine du Saint-Esprit à ses disciples. Il veut qu'ils sachent qu'il leur envoie quelqu'un, qui ne va pas les laisser orphelins, comme il le dira. Il leur envoie quelqu'un de qui il est entièrement et absolument solidaire, quelqu'un qui est pleinement lié au Père et au Fils, qui partage à tous égards leurs projets, leurs visions, leurs pensées, leurs priorités, et qui va être envoyé pour vivre auprès des disciples. Alors concrètement, à quoi est-ce que ça va ressembler? Jésus n'en dit qu'un tout petit peu ici. Le Nouveau Testament révèle plusieurs aspects de l'œuvre de ce Saint-Esprit. Mais ici, Jésus insiste sur son ministère d'enseignement. Verset 26, l'Esprit Saint vous enseignera tout. Et qu'est-ce qu'il va enseigner? Alors, est-ce qu'il va en quelque sorte emmener les disciples vers un nouveau niveau de finesse théologique? Ils vont pouvoir aller beaucoup plus loin encore avec, ça va être une mise à jour 2.0 de l'enseignement de Jésus. En réalité, on voit que le verset 26 associe l'enseignement de l'Esprit à un rappel de l'enseignement de Jésus. Alors, il ne faut pas comprendre par là un simple rappel du genre « Ah oui, tiens, je me souviens que Jésus, il avait dit ça tel jour. » Mais plutôt, comme les chapitres suivants le montreront, l'Esprit-Saint va donner un nouvel éclairage à l'enseignement de Jésus. Et notamment, il va aider les disciples à mieux comprendre l'enseignement de Jésus à la lumière de sa mort sur la croix et de sa résurrection. Et puis, l'Esprit va aussi équiper les disciples pour eux-mêmes pouvoir transmettre ce qu'ils ont reçu de Jésus. Et ça, on en reparlera. Jésus a déjà assuré ses disciples qu'ils le reverront, non seulement brièvement lors de sa résurrection, une période qui a duré 40 jours, où Jésus est apparu plusieurs fois à ses disciples. C'est Luc qui nous dit ça dans le livre des Actes. Non seulement donc à ce moment-là, mais aussi à un horizon plus lointain et de manière définitive, ils reverront Jésus lorsqu'il leur ouvrira grand les portes de la maison du Père, comme il l'a décrite au début du chapitre 14. En ce jour où Dieu renouvellera toutes choses et introduira ses enfants dans sa nouvelle création, c'est-à-dire son nouveau monde. Mais entre-temps, entre le retour de Jésus auprès du Père et son retour sur la terre à la fin des temps, il ne les abandonne pas. Et il veut que ses disciples le sachent. Il les confie à celui qui va les accompagner tout au long de leur vie dans ce monde et qui leur donnera tout ce dont ils ont besoin pour vivre leur mission, c'est-à-dire de faire connaître Jésus dans le monde. La seconde promesse maintenant que Jésus fait à ses disciples, j'ai parlé de deux promesses. La seconde, c'est la promesse de sa paix. Verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Qu'est-ce que Jésus promet à ses disciples ici, quand il dit « Je vous laisse ma paix ». Est-ce que c'est simplement une manière de dire « Soyez paisibles, soyez tranquilles, tout ira bien ». On voit bien à la lecture de ces quelques lignes qu'il y a beaucoup plus que cela ici. Verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne cède pas à la lâcheté. » Quand on pense à la paix, on a tendance à penser à l'absence de conflit, la fin des hostilités. Actuellement, des efforts considérables sont mis en œuvre en Ukraine pour parvenir à la paix, et on voit à quel point c'est difficile. Alors indiscutablement, il y a un élément de paix lorsque on arrête de faire la guerre. Il y a quelque chose de la paix là, c'est sûr. Mais le sens biblique de la paix, c'est quelque chose de beaucoup plus riche. La paix dans la Bible, ce n'est pas seulement l'absence de conflit, mais c'est aussi la présence de la justice, l'abondance des ressources et surtout la présence de Dieu, la reconnaissance de l'autorité de Dieu. C'est tout cela la paix. Et quand la Bible annonce que Dieu va restaurer la paix, quand l'Ancien Testament dit qu'un roi sauveur, un Messie, va venir pour réconcilier Dieu avec sa création et qu'il sera appelé prince de paix, eh bien la Bible annonce la restauration et le renouvellement de la création, l'éradication de la mort et de la souffrance, un avenir avec Dieu qui ne se terminera jamais. Voilà tout ce qu'il y a dans cette annonce de la paix. Et en fait, la paix, c'est peut-être ce à quoi notre cœur aspire le plus profondément, le plus intensément. Ce désir de voir nos besoins comblés, de trouver notre joie, de trouver de la satisfaction, de trouver du repos aussi. Nous cherchons à combler ce désir de bien des manières au quotidien. Mais ici, Jésus dit à ses disciples qu'il leur laisse sa paix. Et il poursuit, « Je ne donne pas comme le monde donne », verset 27. Le monde ici, c'est le monde sans Dieu, le monde qui s'est révolté contre Dieu. Eh bien, ce monde est incapable de donner la paix véritable, que ce soit d'ailleurs, on le voit dans les relations internationales, où la paix est rarement durable, ou bien elle est très relative, ou elle se limite encore une fois à la fin d'un conflit militaire, mais et quand un conflit s'arrête ici, un conflit reprend là. On le voit aussi dans les relations interpersonnelles, où entre trouver la fin d'un conflit, ou au mieux se réconcilier avec quelqu'un, et vraiment trouver une pleine restauration, et trouver vraiment la réponse à nos aspirations les plus profondes, il y a une énorme marge. Le monde donc peut mettre fin ici ou là à un conflit particulier, mais il ne peut pas apporter la paix véritable. La paix que le monde offre, il la reprend aussi très facilement. Et encore une fois, elle ne satisfait pas les aspirations profondes des hommes. Et le cycle infernal de l'injustice, de l'inégalité, de la violence, des malentendus ne prend jamais fin. En revanche, lorsque Jésus dit qu'il donne sa paix à ses disciples, il affirme que dès maintenant, il leur donne l'assurance que leurs besoins les plus profonds seront comblés et que les difficultés, les souffrances, les tensions ou la violence qu'ils vont subir dans ce monde n'auront pas le dernier mot. Et voilà pourquoi il peut leur dire que votre cœur ne se trouble pas et ne cède pas à la lâcheté. Cette paix, Jésus la promet à tous ceux qui ont cru en lui, à tous ceux qui ont reçu son esprit. Alors, est-ce que nous avons bien saisi ce qu'elle implique, cette paix ? Il faut bien comprendre que Jésus ne nous dit pas de ne rien ressentir, de ne pas être affecté par les difficultés de la vie. Ce n'est pas ça qu'il dit. Mais il leur rappelle qu'en tant que ses disciples, ces hommes qui sont avec lui, qui sont ses compagnons et ses disciples aujourd'hui encore, ont basculé dans l'espérance. Ce sont des hommes et des femmes porteurs d'une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui l'emporte sur toutes les mauvaises nouvelles. Les disciples vont devoir attendre pour connaître la plénitude de cette paix. Et nous devons toujours attendre cela avant de connaître cette réalité dans toute sa force. Mais quand Jésus leur dit « Je vous donne ma paix », il leur permet d'avoir l'assurance que c'est vers cette paix qu'ils vont. Et quand Jésus vient à la rencontre de ses disciples après la résurrection, quelle est sa première parole ? Que la paix soit avec vous. Chapitre 20, verset 19. Jésus a traversé l'épreuve de la mort, il est revenu vivant et vainqueur de cette épreuve et il peut donc dire avec autorité que la paix soit avec vous. Sa résurrection est garante dans un sens de la réalité de sa paix. Et alors que notre monde semble tituber ou balancer entre nihilisme consumériste, en particulier en Occident, ou violence ethnique, politique, religieuse ailleurs, alors que la persécution des chrétiens aussi prend sans cesse plus d'ampleur, on en a vu un terrible exemple en Libye il y a quelques jours, est-ce que nous sommes des hommes et des femmes qui sont porteurs de la paix de Jésus ? Cette paix qui promet que le mal n'aura pas le dernier mot. On va aborder maintenant plus brièvement deux assurances que Jésus donne à ses disciples. Jusqu'à maintenant, Jésus a surtout tenu à rassurer ses disciples sur leur situation après son départ. Mais au verset 28, il va plus loin et il leur dit qu'ils devraient se réjouir non seulement pour ce qui les attend eux, mais ils devraient se réjouir aussi pour ce qui attend Jésus. Et c'est la première assurance que je voudrais relever. L'assurance que Jésus donne aux disciples que son départ, c'est aussi une occasion de joie. Ce n'est pas à propos de la mort de Jésus en tant que tel que les disciples devraient se réjouir, mais ce qui attend Jésus après cette terrible épreuve, et puis aussi ce que cette terrible épreuve va faire, va effectuer. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père. Et au début du chapitre 14, Jésus a déjà annoncé cette perspective, je vais vers le Père. Et il a annoncé qu'il préparerait des demeures, des chambres pour les disciples dans la maison de son Père. Autrement dit, Jésus va être chez lui dans la maison du Père, mais il va préparer un chez-soi pour nous, pour tous ceux qui auront placé leur confiance en lui. Il va préparer des retrouvailles magnifiques avec les siens. Et donc pour Jésus, le retour vers le Père, il faut bien comprendre que c'est une perspective profondément heureuse. Alors pour bien comprendre pourquoi c'est une perspective profondément heureuse, il faut avoir à l'esprit ce que Jean nous a dit dès le début de son évangile. Au chapitre 1, il présente Jésus comme étant Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père, mais qui est venu faire sa demeure auprès des hommes. Jésus est chez lui auprès du Père. C'est de là qu'il vient. Mais en venant dans le monde, en s'incarnant pour prendre notre condition humaine, par laquelle il a vécu parmi nous, et non seulement cela, mais on l'a vu il y a quelques chapitres dans l'évangile de Jean, il s'est fait le serviteur de ses disciples, il s'est abaissé, il a quitté la plénitude absolue qui était la sienne pour vivre la condition humaine, y compris dans sa dimension de souffrance et d'épreuve. Jésus a accepté, dans un sens, de quitter l'intimité du Père, même si leur relation n'a pas pris fin, mais il a quitté la plénitude de l'intimité du Père et il s'apprête à subir à la croix le jugement de Dieu contre les péchés des hommes. Il s'apprête à être la victime sacrificielle pour nos offenses contre le Créateur. Donc Jésus a accepté de quitter le paradis pour aller en enfer pour nous. Mais au-delà de cette terrible épreuve, et parce qu'il va sortir des liens de la mort, le Fils de Dieu va rentrer chez lui. Et il ne va pas retourner auprès du Père pour se retirer, pour pouvoir enfin se reposer, mais pour régner. Comme il le dira à ses disciples après sa résurrection, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Si Jésus est dans l'angoisse à propos de la croix, on le voit par ailleurs, il est profondément dans la joie en pensant à son retour auprès du Père. Un peu plus tard, au chapitre 16, Jésus va évoquer l'image d'une femme qui accouche, mais qui oublie aussitôt sa douleur lorsque son bébé est arrivé. Et c'est comme si cette douleur terrible, elle n'avait pas été là. Il utilise cette image pour décrire la tristesse et la douleur de ses disciples qui va se changer en joie après la résurrection. Mais nul doute que cette image, elle convient aussi pour décrire ce que Jésus lui-même va vivre. Il va passer par une épreuve très douloureuse, mais il va en ressortir. Et ce qu'il va vivre va être tellement magnifique que l'épreuve sera définitivement derrière lui. Alors je ne sais pas ce que c'est que d'accoucher et je ne le saurai jamais. Mais j'ai accompagné ma femme Talia, c'est pas la même chose, hein, mais il y a bientôt 2 ans, et j'ai pu voir ces premières heures où c'est la douleur qui domine avant que la joie ne prenne entièrement le dessus. Lorsqu'on sait qu'une joie magnifique nous attend après une épreuve, on est aussi mieux préparé à affronter l'épreuve. Et c'est dans ce contexte qu'il faut aussi comprendre cette parole de Jésus qui dit « Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, parce que le Père est plus grand que moi. » Verset 28. Oula, verset difficile. Alors certains citent ce verset pour contester la doctrine de la Trinité ou la divinité de Jésus. Le problème avec ça, c'est que ça ne cadre pas avec les affirmations massives tout au long de l'évangile de Jean, de ce que Jésus est, Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père, Jean 1, 18. La parole qui est avec Dieu depuis le commencement et qui est Dieu, Jean chapitre 1, verset 1. Celui qui existe depuis toujours, celui qui peut revendiquer le nom divin, je suis, comme on le voit tout au long de l'évangile de Jean, des paroles qui sont rappelées sur les murs de cette église. Mais on l'a déjà dit, Jésus ne donne pas ici un cours de doctrine. La clé pour comprendre cette phrase, lorsque Jésus dit « Le Père est plus grand que moi », c'est le lien de cause à effet que Jésus va établir. « Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. » Donc pour Jésus, le fait que le Père est plus grand que lui, ça rend particulièrement joyeuse la perspective de le retrouver. Donc on voit bien que Jésus n'est pas en train de parler en termes de valeur ontologique, de différence dans l'être entre le Père et lui, ou je ne sais quoi. Mais ce qu'il dit, c'est que dans son humanité, en s'abaissant pour entrer dans la condition humaine, il a quitté la gloire du Père. Il s'est justement abaissé. Mais le Père, lui, ne s'est pas abaissé. Et Jésus se réjouit de retrouver le Père, parce que le Père, lui, il est au-dessus de tout. Et il est au-dessus de l'homme Jésus, dans son abaissement. La première assurance que Jésus donne, donc, c'est que son retour vers le Père, c'est un heureux événement. Et pour les disciples, puisqu'ils recevront le Saint-Esprit, c'est un événement heureux, mais aussi pour lui, parce qu'il va retourner dans cette intimité du Père. Et il va être établi sur son règne, dans son règne sur toute la création. La seconde assurance que Jésus donne dans ce texte, on la trouve au verset 30. « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi qui lui appartienne. » Et c'est tellement important de comprendre cette phrase au moment où Jésus s'apprête à aller à la croix. « Il n'a rien en moi qui lui appartienne. » Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Il veut dire par là que cet esprit qui est l'instigateur du mal, le diable, l'ennemi spirituel, n'a aucune prise sur lui. Et ça peut surprendre, alors que tout ce qui est en train de se passer semble aller dans le sens des projets de cet ennemi. On a vu que le diable est entré dans Judas pour lui faire commettre l'irréparable, trahir Jésus. Et Jésus ne cache pas qu'effectivement, le projet immédiat de Judas va être accompli. Jésus va être arrêté, il va être condamné, il va être exécuté. D'ailleurs, à la fin du passage, il dit « Levons-nous, partons d'ici ». On voit bien qu'il n'est pas en train de se cacher. Il va même aller vers ce qui va lui arriver. Mais Jésus explique au verset 31 que s'il accepte tout cela, ce n'est pas parce qu'il est impuissant face au diable. Ce n'est pas parce que il n'y peut rien et que voilà, ça, le diable va remporter une victoire. Non. Si Jésus va à la croix, ce n'est pas parce qu'il est impuissant face au diable, mais c'est parce qu'il obéit au Père. Je fais ce que le Père m'a commandé. La croix n'est pas un accident de parcours. Elle est au cœur de la volonté du Père pour sauver les hommes et les femmes qu'il est venu sauver. Le diable a peut-être cru un instant triompher lorsqu'il a vu Jésus, le Fils de Dieu, agonisant sur la croix. En réalité, il assistait là à sa propre défaite. Parce qu'en mourant à la place des pécheurs, Jésus les libérait de l'emprise du mal. Et voilà pourquoi la croix, cet instrument de torture romain, c'est devenu le symbole de notre espérance. Voilà pourquoi Jésus, qui s'apprête à être supplicié, affirme qu'il va être glorifié. Parce qu'il va libérer son peuple du mal. Voilà pourquoi nous pouvons vivre les épreuves avec l'assurance qu'elles n'auront pas le dernier mot. Voilà pourquoi nous pouvons nous réjouir de la croix. Prions. Merci pour la croix, Seigneur Jésus. Merci d'être allé jusqu'à ce terrible supplice, jusqu'à subir la colère, la juste et sainte colère de ton Père contre nous, pécheurs. Merci parce que, en la prenant sur toi, tu nous en as libérés et tu nous invites maintenant à nous approcher de toi par la foi et à obtenir en toi le plein pardon de nos fautes, comme Sonia l'a confessé tout à l'heure, d'obtenir en toi une vie nouvelle et l'assurance d'une relation qui ne s'arrêtera jamais. Merci parce que tu nous as donné ta paix et que cette paix, c'est la promesse que rien ni personne ne pourra nous séparer de toi et de la joie sans borne, de la joie complète qui nous attend en ce jour où tu décideras, après avoir appelé à toi tes disciples, tes enfants d'entre les nations, ce jour où tu décideras de mettre un terme à l'histoire de ce monde pour commencer une nouvelle histoire éternelle. Au nom de Jésus, amen.